Radio Kapi. Le journal Babel Pamomasina.
La restauration progressive de l'autorité de l'État dans l'est du pays au centre d'un atelier national qui se clôture ce vendredi à Kinshasa. Il s'agit au finish d'élaborer une feuille de route nationale en ce sens. Cacophonie à la tête du Olomami, d'après des sources locales, difficile de savoir qui gère la province actuellement entre le gouverneur, le vice-gouverneur et le ministre des infrastructures qui assure l'intérim du gouverneur. Crise dans l'est de la RDC, la Belgique et la France préconisent la tenue d'un dialogue national inclusif en RDC. Pour elles, cela est complémentaire au processus de Doha, de Washington et à la médiation africaine. Dialogue entre Congolais a abordé cette problématique hier pour suivre les réactions des uns et des autres. Madame, Monsieur, bonjour. Ouverture ce jeudi à Kinshasa d'un atelier national consacré à la restauration de l'autorité de l'État dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces travaux sont organisés sous la direction du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemin Chabani. Cet atelier réunit pendant deux jours des experts des services de sécurité pour analyser la situation sécuritaire, notamment à Uvira, chef du proviseur du Sud Kivu, et proposer des réponses adaptées. Qualifiant le retrait du M23 de trompeur, Jacquemin Chabani affirme que le gouvernement privilégie une approche anticipative et coordonnée à travers l'élaboration d'une feuille de route nationale pour une restauration progressive de l'autorité de l'État. En écoutant ces propos recueillis par Grace Samzati.
Si les populations d'Ouvira ont accueilli avec satisfaction le retrait visible des troupes d'occupation, les analyses des services de sécurité révèlent une réalité plus complexe. Il est signalé la présence d'éléments résiduels du RDF M23 dissimulés en tenue civile, capables de perpétrer des massacres ciblés contre les civils, notamment au sein des communautés vulnérables, dans le but de ternir l'image de la République et d'accuser faussement les forces armées de la République démocratique du Congo ou les Oisalènes. Il est aussi signalé la présence de groupes armés dans les zones montagneuses supplombant la ville d'Uvira, conservant un avantage tactique. Il y a aussi le risque que la présence non encadrée des groupes d'autodéfense Oisalendo, pourtant animés d'un esprit patriotique, ne compromette les efforts de stabilisation. Et enfin, la réouverture imminente des postes frontaliers susceptibles de provoquer un afflux massif des personnes, alors que la police nationale congolaise et la direction générale des migrations doivent encore être pleinement redéployées.
Jacquemin Chabani, vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité. Au Nord Kivu, dans le territoire de Beni, près de 500 ménages déplacés ont besoin d'assistance dans plusieurs villages de la chefferie de Bachou. Il s'agit majoritairement des femmes et des enfants. Ils fuient depuis une semaine les attaques répétées des rebelles ADF dans certaines localités du territoire de Lubero. Le président de la société civile de Bachou lance un appel à la solidarité et à l'aide humanitaire. Maombi Kaongia s'exprime au téléphone de Martial Papi Mukiba.
Dans différents villages, dont les villages Burondo, Kivira, Kiondo Kitumbu, Kisesandondi et l'agglomération de Butuhi, ça registre un afflux de déplacés internes venant du groupement Mwenye dans la chefferie de Bassoa à territoire de Lubero. Le groupement Mwenye qui enregistre actuellement des atrocités suite au massacre y enregistré par les ADF Nalu. Les déplacés internes sont signalés dans des familles d'accueil. Pour le moment, on enregistre près de 500 ménages. Le message que nous demandons à la population d'accueillir nos frères et sœurs avec une grande hospitalité et aussi de pouvoir enregistrer tous ceux-là qui sont dans des familles d'accueil auprès des chefs d'entité. Également, nous rappelons aux personnes de bonne volonté, aux humanitaires, de pouvoir pour les apporter de l'aide nécessaire et surtout qu'ils ont fui leur entité sans pour autant emporter quoi que ce soit.
En Ituri, à présent, 16 civils, dont un enfant enlevé dans la nuit de mardi à mercredi par des miliciens de la Codeco à Djoupa Péché, en territoire de Mahagi, ont été libérés après 24 heures de captivité. L'information a été confirmée ce jeudi par le chef de la chefferie de Pandourou. Les autorités locales appellent les communautés, les groupes armés à privilégier le dialogue et les voies pacifiques pour le règlement des différends afin d'éviter de nouvelles violences contre des civils. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
Parmi les personnes enlevées figurent les chefs du village de Djupakbeche qui, à l'instar des autres victimes, auraient subi des actes de torture selon des sources locales. Son état de santé étant jugé préoccupant, cette autorité coutumière est actuellement admise dans une structure sanitaire pour recevoir des soins appropriés. Selon les chefs de la chefferie de Pandourou, les assaillants affirmaient être à la recherche d'armes qu'ils soupçonnaient être cachées à la résidence du chef du village. Une fouille a été menée mais aucune arme n'a été retrouvée. Avant de se retirer, les miliciens ont emporté plusieurs biens appartenant à la population, notamment de l'argent, des chèvres et de la volaille, aggravant davantage la situation humanitaire déjà précaire dans cette zone. De son côté, le chef de l'entité, Arnold Lokwa, déplore ces actes et appelle les responsables de la CODECO au respect des engagements pris en faveur du règlement pacifique des conflits. Pour sa part, le responsable territorial de la société civile Force Vive plaide pour le renforcement des dispositifs sécuritaires afin de mieux protéger les civils et prévenir de nouvelles exactions. Bounia, Jean-Claude Loki, Guilé, Radio Okapi.
Nous restons en Litori. Après plusieurs mois marqués par l'insécurité, le territoire de Djougou retrouve progressivement une accalmie sécuritaire, une situation qui favorise la relance des activités agricoles, principale source de subsistance pour une population longtemps affectée par les violences armées. Cette reprise contribue également à l'amélioration des conditions de vie des habitants, majoritairement des déplacés internes, malgré d'importants défis humanitaires. Ces informations de Jean-Claude Loki sont rendues ici par Benjamin Moudoumbi.
Dès les premières heures de la matinée, hommes, femmes, jeunes retournent dans les champs, dans les villages des Lobo. Par exemple, des terres longtemps abandonnées commencent à être à nouveau labourées, comme en témoigne Charité Banza, habitant de la contrée.
Et depuis mars, on commence déjà la clôture. Tous les haricots, les maïs, et après avoir terminé à flatter, les maïs, les maniocs, déjà dans le mois d'avril, là, on va commencer à faire les champs de la patate douce, ainsi que des maniocs.
La reprise des activités agricoles concerne principalement les cultures vivrières. Les autorités locales saluent cette dynamique et affirmer travailler en étroite collaboration avec les forces de sécurité afin de préserver la stabilité et favoriser un retour durable des activités socio-économiques. Justin Goudza, chef du secteur des Walindu Djati.
Vraiment que la population ne se laisse pas manipuler, les gauches et droites pour encore retomber dans le rebondissement. Voilà, de se considérer comme des frères et sœurs et que l'amour du prochain voilà, puisse vraiment régner.
Cependant, plusieurs défis persistent, notamment les manques d'intrants agricoles, la destruction de certains villages et l'insécurité encore signalé dans certaines localités. Face à cette situation, les autorités locales plaident pour un appui accru aux agriculteurs, en particulier en semences et en outils oratoires.
Dans un communiqué, les forces armées de la République démocratique du Congo annoncent que les obsèques du général de brigade Daniel Mwaku Mbuluku auront lieu ce vendredi à Kinshasa. L'inhumation est prévue au cimetière Le Repos du Soldat à Lancele. L'officier supérieur des FARDC est décédé le 12 septembre dernier dans la zone opérationnelle d'Ouvira. Cacophonie à la tête de la province du Haut-Lomami depuis plusieurs semaines. D'après des sources locales, difficile de savoir qui gère la province actuellement entre le gouverneur, le vice-gouverneur et le ministre des infrastructures qui assure l'intérim du gouverneur. Le ministre des infrastructures refuse de céder la gestion de la province au vice-gouverneur qui est retourné depuis peu dans la province. Il faut préciser que le gouverneur qui a été invité à Kinshasa pour consultation avait décidé de laisser l'intérim au ministre provincial des infrastructures au moment où le vice-gouverneur était aussi présent à Kamina. Éclairage avec Paula Munanga.
Le gouverneur du Haut-Lomami, Marmo Banzamouloumé, séjourne à Kinshasa depuis plusieurs semaines pour consultation auprès de sa hiérarchie. Cependant, des sources locales à Kamina, chef lieu du Haut-Lomami, renseignent que le gouverneur serait en train de prendre certaines décisions sur la province. Pour sa part, le ministre des infrastructures à qui le gouverneur a laissé l'intérim de la province ne veut pas laisser la gestion au vice-gouverneur qui est retourné depuis peu dans la province, indiquent les mêmes sources. Pour le cadre de concertation de la société civile du Haut-Lomami, cette crise a des multiples conséquences négatives sur la population. De son côté, l'Union sacrée décrit cette confusion et en appelle à l'implication du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Fiston Nyembo, secrétaire exécutif de l'Union sacrée du Haut-Lomami.
Depuis que le gouvernement est rentré ici, le ministre Pressayan n'a jamais cédé. Il est en train de faire un bras de fer avec le vice-gouverneur de la province. De l'autre côté, c'est lui-même le gouverneur Banzamouloumé Marmo qui ordonne la paix à l'issue du vice-gouverneur qui a en train de gérer actuellement d'abord la province en attendant. Nous venons encore de constater de l'autre part, c'est le sceau du gouvernorat bloqué par les membres du cabinet du gouverneur Banzamouloumé Marmo. Nous demanderons à ce que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, puisse prendre toutes les dispositions idoines pour décourager ces pareils actes.
Lubumbashi, Pone Munanga, Radio Okapi.
La Fondation Panier de la Femme plaide pour la permanence de l'électricité à Kinshasa et particulièrement dans la commune de Kintambo. Un mémorandum a été déposé hier à la maison communale de Kintambo auprès de Daniel Kabambou, secrétaire communal et représentant du bourgmestre. Les femmes de cette structure demandent au bourgmestre de porter leur voix auprès des autorités de la Société nationale d'électricité car la desserte est très irrégulière et cela accroît l'insécurité. Écoutons à ce sujet Love Ingele, présidente de la Fondation Panier de la Femme au micro de John Ochiboba.
Chilid m'a aidé à voir les problèmes qui rongent notre communauté et faire un plaidoyer. Raison pour laquelle nous sommes venus voir le bourgmestre qui est toujours à l'écoute de la population et nous allons trouver une solution. Ce qui nous a motivés à venir voir le bourgmestre, lui étant le premier représentant de notre commune, la SNEL, la Régie des Eaux et d'autres établissements publics viennent après. Voilà pourquoi nous avons jugé bon de venir auprès de lui et lui de son côté portera notre voix auprès des autorités de la SNEL.
Au Nord Kivu, au moins 29 délégués issus de 9 organisations locales en 12 femmes sont désormais outillés sur les nouvelles techniques de protection de l'enfant. Ils ont pris part ce jeudi à Goma à une séance de renforcement des capacités organisée par la section de protection de l'enfant de la MONUSCO. L'activité visait à renforcer le partenariat entre la mission onusienne et ses acteurs locaux dont les actions sont fortement affectées par l'occupation d'une partie de la province par le mouvement rebelle AFC M23 soutenu par le Rwanda. Bernard Danyangi pour des
détails. Afin de renforcer leurs compétences en matière de vigilance et d'alerte précoce sur les violations graves des droits des enfants, la MONUSCO a choisi d'initier cette formation. Un appui salué par Mme Betty Kasigwa de l'ONG Innové Goma qui souligne l'évolution des approches apprises.
Avant, tout enfant qui s'est victimisé pouvait donner déjà l'allure à être protégé. Mais on comprend qu'il faut d'abord commencer par l'identifier, savoir le profil de cet enfant. C'était vraiment différent de ce que nous venons d'apprendre aujourd'hui.
De son côté, Mme Gladys Mukongia de l'ONG Active estime que le partenariat avec la MONUSCO est essentiel pour la réussite des activités de terrain.
Comme nous intervenons directement sur terrain, nous avons différentes informations et peut-être que nous avons insuffisance de moyens logistiques pour pouvoir répondre directement à ces cas. Alors, nous attendons la MONUSCO, cet appui logistique et opérationnel, mais également l'appui dans le plaidoyer et les lobbies.
Ces échanges ont mis en lumière les conséquences persistantes de la crise sécuritaire en Nord Kivu qui continue d'exposer les enfants au recrutement par des groupes armés, aux violences sexuelles, aux enlèvements, ainsi qu'à d'autres violations graves de leurs droits. Une situation particulièrement aggravée depuis janvier 2025.
La nouvelle société civile du territoire de Louisa alerte sur les dangers que représentent les hippopotames dans cette partie de la province. Les faits sont rapportés dans le village de Moenia Ambulu, situé dans le groupement de Ndombi secteur de Louita. Selon cette structure citoyenne, ces animaux quittent régulièrement leur habitat aquatique pour pénétrer dans la communauté, semant la panique et la désolation. Des pertes en vies humaines ont déjà été enregistrées. André Katendenga Lamoulumé.
Selon la nouvelle société civile du territoire de Louisa, 3 hippopotames ont été signalés dans le village de Moenyambulu où leur présence a semé la psychose au sein de la population. Le président territorial de cette structure, Paulin Kongolonsaki, indique que ces animaux constituent un réel danger pour les habitants de Moenyambulu. Il précise qu'une femme d'une trentaine d'années était dévorée le lundi dernier par un hippopotame.
On a constaté mort d'homme, une dame âgée de 35 a été récupéré par l'hippopotame et l'hippopotame l'avait tué, l'avait décomposé. Et jusqu'à présent, on constate encore la présence des hippopotames.
Cette situation a provoqué une vive panique au sein de la population locale, désormais plongée dans la peur. Face à cette menace, Paulin Kongolonsaki appelle les services de l'État en charge de la protection et de la gestion de la faune à intervenir en urgence afin d'éviter une aggravation de la situation. Tananga, André Katendenga Lamouloumé, Radio Kapi.
Nous parlons donc de Louisa dans la province du Kasaï central.
Actualité internationale.
Le célèbre parc national Kruger en Afrique du Sud a subi des dégâts importants lors de récentes inondations causées par des pluies torrentielles et des crues records. Les infrastructures endommagées pourraient coûter plus de 30 millions de dollars pour être réparées. Les fortes pluies ont entraîné la suspension des visites, l'évacuation des visiteurs et du personnel par avion ainsi que la fermeture de 15 camps.
L'invité.
Crise dans l'Est de la RDC, la Belgique et la France préconisent la tenue d'un dialogue national inclusif en RDC. Ainsi, la Belgique a réaffirmé son engagement pour une solution pacifique dans l'Est de la RDC en encourageant un dialogue national inclusif. La France, de son côté, en plus de soutenir cette initiative, la considère comme complémentaire au processus en cours à Doha, à Washington et à la médiation africaine. Dialogue entre Congolais de ce jeudi est revenu sur cette problématique. Chaque intervenant à cette émission a exprimé son opinion à ses propos. On les écoute au micro de Jean Gandou.
Christian Mando, député national, élu de Moba dans la province du Tanganyika, cadre d'Ensemble pour la République, parti de l'opposition et président du groupe parlementaire Ensemble à l'Assemblée nationale. Quelle analyse faire du soutien de la Belgique et de la France à l'idée de la tenue d'un dialogue national inclusif?
Ce dialogue aura pour objectif essentiel, 1, de rassembler tous les pays du pays autour d'une table pour aborder les causes profondes de cette crise multidimensionnelle que traverse notre pays. Les guerres, les tueries, parce qu'il n'y a pas que la guerre, il y a les tueries, ADF et autres, il y a les problèmes de sécurité sur l'ensemble du territoire. Vous avez les Mobondo, vous avez les pillages qui s'organisent dans les maisons des gens, partout en République démocratique du Congo. Il y a la déliquescence de l'État. Il y a également le respect de la démocratie, le respect de liberté, les questions de gouvernance, les questions de corruption. Donc, comment refaire la cohésion nationale et trouver ensemble des solutions consensuelles pour bâtir un pays fort et uni? Parce que n'oublions pas que les défaites que subit notre pays au niveau de la guerre est dû à la faiblesse de l'État. Comment renforcer notre État pour ne plus avoir à nous plaindre? C'est une solution qu'on doit trouver ensemble.
Passim Bayo, au cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation, vous êtes à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Quelle analyse faites-vous du soutien de la Belgique et de la France à l'idée de la tenue d'un dialogue national inclusif?
Vous allez vous rendre compte, au nom de la simple logique intellectuelle, les propos du ministre belge des Affaires étrangères, tout comme ceux de la France, sont superfétatoires. Le président de la République a déjà accepté l'idée du dialogue plus de 6 fois dans ses discours.
Mais il a dit pas avec n'importe qui.
J'ai dit que sur le plan du besoin du dialogue, nul n'est contre le dialogue. Mais la question la plus importante à se poser, c'est le pourquoi et le comment du dialogue. Le président de la République a toutes ses raisons de poser des conditionnalités pour ce dialogue tant souhaité par nos amis de l'opposition en l'occurrence. Mais comment voulez-vous aller à un dialogue avec des gens, par exemple, je prends par exemple le camp de Kabila, ils se veulent eux-mêmes être dans le mouvement politico-militaire que j'appelle AFC, M23, et j'ajoute également le Rwanda, et en même temps faire l'opposition civile démocratique au pays. C'est quand même rédhibitoire. Comment voulez-vous aller à un dialogue où, lorsque vous avez affaire à certains opposants, au clair de la lune, tout comme de manière camouflée, ont déjà fait allégeance à Kigali? Ça me rappelle une phrase de Kiba Samaliba au Zaïre qui dit que ceux qui ont mangé à la table du diable. Dialogue entre Yamwando, le Martin Fayou, etc. C'est un dialogue qui doit avoir lieu. Pas mélanger les choux et chèvres en prenant ceux qui ont versé le sang du peuple, en les amenant dans une question aussi civile et démocratique comme celle-là.
Jolino Maloukissa, directeur du pilier gouvernance à l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence à Ebouteli. Est-ce que le dialogue paraît en ce moment comme étant une panacée pour qu'on trouve réellement une solution aux problèmes qui minent la RDC, notamment dans sa partie est?
Je ne dirais pas que le dialogue peut constituer aujourd'hui une panacée, mais c'est une voie importante, peut-être une voie royale aussi pour essayer de trouver des solutions aux problèmes majeurs qui créent l'instabilité au Congo. On a besoin de ce dialogue pour renforcer la cohésion. C'est important parce que regardez bien, tous les pays voisins et principalement le Rwanda, quand il faut attaquer le Congo, on se sert des Congolais. Et généralement, c'est des Congolais mécontents qui rejoignent la rébellion instrumentalisée par le Rwanda. Donc, de ce point de vue, le dialogue est capital. Et quand nous voyons aujourd'hui des acteurs majeurs, pas négligeables quand même, de la scène politique congolaise qui sont à l'extérieur, c'est parce qu'il y a des soucis sur le plan interne. Donc, dans tous les cas, comme vous l'aviez si bien dit, le président de la République lui-même parle de ces dialogues. Mais quand on dit qu'il faut dialoguer tout simplement avec ceux qui ne sont pas derrière le Rwanda, alors que du côté Doha, du côté Washington, on a fait avancer les pas. On a quand même discuté avec les agresseurs, on a discuté avec ceux qui tuent, qui massacrent les Congolais jour et nuit à l'est du pays. Si on peut assimiler les autres à ces camps, alors à ce moment-là, le dialogue sera toujours possible. On sent aujourd'hui une opposition en perte de vitesse, hein, et une société civile qui est dans la même impasse, parce que en 2015, 16, 17, c'est une société civile, une opposition qui était assez forte pour pousser Kabila et son régime à pouvoir négocier. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, on est dans une situation où la crise est très sévère et il est vraiment capital qu'il y ait des avancées significatives pour aller à ces dialogues. Mais aussi, il faut comprendre une chose. Pourquoi aujourd'hui la France, la Belgique veulent pousser à ces dialogues? Mais c'est parce qu'aussi, sur le plan international, il manque de cohésion. La démarche de Washington, de Doha, a exclu l'Union européenne, a exclu la France, a exclu la Belgique.
Merci, c'est la fin de ce journal préparé par Richard Junior Kamunga, mis en onde par Alain Goy. Merci de l'attention que vous nous avez accordée. Excellente journée à l'écoute de la fréquence de la paix.